7h44 à Paris et Kinshasa. Dans 3 minutes, notre invité Afrique, Ibrahim Hassan Mayeki, ancien Premier ministre nigérien. Mais d'abord, la revue de presse africaine. Avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, rendez-vous manqué à Luanda.
Oui, revirement de dernière minute, la délégation de l'AFC M23 ne se rendra pas ce mardi dans la capitale angolaise pour parler de la paix dans l'est de la RDC. La rébellion justifie cette annulation, précise Jeune Afrique, par l'annonce hier de nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne. Ces mesures visent plusieurs membres du M23, dont le président de sa branche politique, Bertrand Bismi-Simoua, qui avait été officiellement invité par l'Angola à participer au dialogue. Outre des officiers rwandais sanctionnés pour leur soutien aux rebelles, ces mesures ciblent aussi différents cadres du mouvement, dont le colonel John Imani Nzenze, chargé du renseignement au sein du M23, ou encore John Musonga Bati, alias Erasto, nommé gouverneur du Nord Kivu après la prise de Goma.
L'AFC M23 évoque donc un sabotage du processus de paix, pointe le site congolais Actualité CD.
Oui, le groupe rebelle estime que ces décisions, notamment les sanctions européennes, renforcent la position du président Tshisekedi, qu'il accuse de poursuivre une politique belliciste. L'AFC M23 affirme également que les forces congolaises et leurs alliés poursuivent leurs offensives sur plusieurs fronts, notamment par des bombardements aériens et par l'utilisation de drones de combat. Selon le mouvement, ces attaques rendent toute négociation impossible. Presque simultanément aux sanctions européennes, relève pour sa part Le Monde Afrique, le Rwanda a décidé de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat avec la Belgique. Kigali accuse l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en RDC.
Afrique Arabia, site spécialisé sur la RDC, s'interroge. Le choix de l'Union européenne d'annoncer des sanctions contre le M23 et le Rwanda la veille de négociations à Luanda était-il vraiment judicieux?
Oui, et est-ce que l'annulation de la rencontre entre le M23 et le gouvernement congolais n'arrange finalement pas tout le monde, se demande encore Afrique Arabia. Sur le carambolage de calendrier entre l'annonce de l'Union européenne et les négociations de Luanda, on peut clairement dire qu'il s'agit d'une erreur, estime le site, permettant d'offrir sur un plateau un prétexte idéal au M23 pour claquer la porte, d'autant que les Européens planchent sur ces sanctions depuis plusieurs semaines. On peut également se demander, pointe encore Afrique Arabia, si les rebelles et Kinshasa avaient vraiment envie de cette rencontre surprise organisée dans la précipitation par João Lourenço. Le M23 est dans une telle position de force militaire qu'il peut tout se permettre en restant maître du jeu et des horloges. Et en effet, face à une armée congolaise qui n'est plus offensive, le M23 peut espérer s'emparer de nouveaux territoires au nord, à l'ouest et au sud, laissant ainsi Kinshasa avec des marges de manœuvre de plus en plus limitées. Quant au pouvoir congolais, relève encore Afrique Arabia, on sait que le président Tshisekedi, qui a répété à l'envi pendant de longs mois qu'il ne négocierait jamais avec le M23, semble vouloir retarder le moment fatal où il sera bientôt obligé de s'asseoir en face de la rébellion.
Pour le Djeli en Guinée, le M23 porte l'entière responsabilité de cette autre occasion manquée.
Si les autorités congolaises avaient réussi à surmonter leur réticence à dialoguer directement avec les rebelles, ce sont finalement ces derniers qui ont opté pour le boycott et la chaise vide. Ce choix du M23 est d'autant plus condamnable, s'exclame le Djeli, qu'il révèle le manque d'intérêt du mouvement rebelle pour le rétablissement de la paix et de la tranquillité, en particulier se cacher derrière les sanctions adoptées hier par l'Union européenne pour refuser de participer aux négociations, relève d'un chantage malsain.
Alors, et maintenant, s'interroge Wakat Serra au Burkina Faso.
Oui, que vaudra la feuille de route accouchée par les ministres des Affaires étrangères de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de Développement d'Afrique australe au cours de leur rencontre conjointe d'Harare hier. Luanda reviendra-t-il encore à l'ordre du jour avec les sanctions prises et celles en vue et que l'AFC M23 pointe du doigt comme un frein à la marche vers la sortie du conflit? Pour l'instant, soupire Wakat Serra, la RDC attend toujours le bon sapeur-pompier alors que les ingrédients s'accumulent dans la marmite et la rendent davantage explosive.
Frédéric Couteau, vous revenez dans une demi-heure pour la revue de presse internationale. À la une, Poutine et Trump vont-ils officialiser un deal, un marché sur l'Ukraine?
Oui, les deux dirigeants vont se téléphoner aujourd'hui et il se pourrait bien en effet, d'après la presse, qu'ils se soient mis d'accord au détriment des Ukrainiens.
A tout à l'heure, 8h20 heure de Paris pour cette revue de presse.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Plus de 330 morts, dernier bilan fourni cette nuit par la défense civile palestinienne après des frappes particulièrement intenses menées par Israël sur la bande de Gaza ces dernières heures. Une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas le 19 janvier dernier. Des frappes sur des objectifs terroristes appartenant au Hamas, selon l'armée israélienne, décidées selon le gouvernement israélien suite au refus répété du Hamas de libérer les otages et à ses entraves aux négociations. Le Hamas, selon qui le Premier ministre israélien et son gouvernement ont ainsi torpillé l'accord de cessez-le-feu, exposant les prisonniers à Gaza à un sort incertain. Fin de citation. Le Hamas annonce par ailleurs que le général à la tête du ministère de l'Intérieur pour la bande de Gaza a été tué dans ses frappes. La Maison Blanche, de son côté, dit avoir été consultée par Israël avant que l'État hébreu ne vise l'enclave. Les rebelles houthis du Yémen ont condamné ces frappes sur la bande de Gaza et promettent de poursuivre l'escalade. Plus tôt ce mardi, ils ont annoncé avoir frappé le porte-avions américain Harry Truman en mer Rouge pour la troisième fois en trois jours. Les combats ont aussi repris ce matin à la frontière entre le Liban et la Syrie après une éphémère trêve de quelques heures décidée après un entretien hier entre les ministres de la Défense des deux pays. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir par téléphone aujourd'hui pour évoquer notamment le plan de cessez-le-feu américain pour l'Ukraine, validé pour l'heure par Kiev. Et puis en France, à Paris, les forces de l'ordre ont commencé ce matin à évacuer la Gaîté Lyrique, espace culturel à Paris occupé depuis plus de trois mois par des centaines de jeunes migrants. La violence de cette évacuation est dénoncée par une députée de gauche présente sur place. Le choc peut être résorbé si chaque pays africain mobilise efficacement ses ressources nationales. Voilà ce que répond Ibrahim Hassan Mayaki à l'arrêt des financements étrangers décidé il y a peu par l'administration Trump. Cet ancien premier ministre nigérien de 1997 à 2000 est aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier sur RFI.
Ibrahim Hassan Mayaki, bonjour.
Bonjour.
En 50 ans, le déficit alimentaire de l'Afrique est passé de 10 à 25%, c'est-à-dire que le continent africain est obligé d'importer 25% des produits alimentaires qu'il consomme. Comment répondre à ce défi ?
Alors, on est obligé de reconnaître que malgré les progrès qui ont été faits pour accélérer la productivité et la production agricole, on s'est heurté à une croissance démographique qui est quasi unique dans l'histoire de la démographie.
Une croissance très rapide de la
population. Absolument, très rapide de la population. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes importateurs nets de produits alimentaires. La FAO chiffre cela à peu près 100 milliards de dollars par an. Ces 100 milliards de dollars proviennent de la poche de consommateurs africains et s'ils pouvaient être réalloués ou alloués dans la transformation des systèmes agricoles, on importerait beaucoup moins de produits alimentaires.
Alors pour produire plus de biens alimentaires, il faut évidemment investir dans l'agriculture. Il y a un peu plus de 20 ans, en 2003, à Maputo, les quelques 55 pays de l'Union africaine se sont engagés à investir 10% de leur budget national dans l'agriculture et le développement rural. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ?
Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont atteint ces 10%. On peut estimer à une dizaine de pays le nombre de ceux qui ont atteint ces 10%. La courbe est positive, mais le nombre est quand même faible.
Oui, 10 alors, sur 55.
10 sur 55. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, s'est développé un débat sur le contenu de ces 10%. Ce qui est au cœur de la question, c'est que nos investissements publics dans le secteur agricole doivent être beaucoup plus importants qu'ils ne le sont, et évidemment 10%. Deuxièmement, ces investissements publics ne sont pas suffisants. Il faut attirer des investissements privés. Et une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les premiers à financer l'agriculture africaine aujourd'hui, ce sont les petits agriculteurs.
Eux-mêmes. Et il faut investir dans quoi, docteur Mayaki ? Dans les cultures vivrières, dans les engrais, dans quoi ?
Alors, l'approche système alimentaire, à travers le terme système, met l'accent sur une dimension multisectorielle. C'est-à-dire que pour transformer l'agriculture, on a évidemment besoin d'input, d'intrants. Des engrais. On a besoin de semences, on a besoin de routes rurales, on a besoin de formation, on a besoin de capacités digitales, on a besoin d'énergie, on a besoin de tout un tas de facteurs qui relèvent de secteurs différents. Et c'est la coordination des investissements dans tous ces secteurs qui fait système. Et c'est là que se pose la question en termes de planification. Alors, il faut investir sur l'appui aux producteurs. Et cet appui aux producteurs doit être aussi un appui financier. Le deuxième type d'investissement qui doit être fait, c'est l'investissement dans les infrastructures.
Les routes.
Les routes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'Éthiopie a réduit son problème de famine. Parce qu'il y avait des régions excédentaires et des régions déficitaires. Et quand Belezenawi connecte les deux régions à travers les infrastructures, ça permet à l'Éthiopie de réduire ses problèmes de famine.
Le 25 janvier, Donald Trump a décidé de suspendre l'USAID pour 3 mois. Or, l'aide humanitaire des États-Unis, c'est 60 milliards de dollars par an. Quel est l'impact pour l'Afrique et notamment pour sa sécurité alimentaire ?
Le premier signal, et j'en parle depuis quelques années, c'est qu'il est important pour les pays africains d'anticiper sur la disparition de l'aide publique au développement. Et deuxièmement, ça entraîne évidemment une mobilisation des ressources nationales. Si nous avons des stratégies de mobilisation de ressources nationales beaucoup plus efficaces, nous serons à même de faire face à ce manque de ressources. Lorsque j'étais Premier ministre, nous avions fait un calcul rapide sur nos recettes douanières et nous étions rendus compte que si nous augmentions de 3 points nos recettes douanières, ça pouvait être équivalent quasiment à l'aide publique au développement. Donc nous avons des efforts de gouvernance interne très importants à faire. Donc il faut prendre cela comme un choc, mais ce choc doit être résorbé par la définition de capacités internes et la mobilisation de nos ressources internes.
Monsieur le Premier ministre, merci.
Ibrahim Hassan Mayaki, ancien Premier ministre nigérien, envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. Il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Manan, on vous retrouve comme chaque matin sur notre antenne aujourd'hui. Vous nous dites qu'en très très démocratique république, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
Oui, dans notre beau pays, le hasard est une denrée très très rare. N'écoute donc pas les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile qui se repaissent des tribulations du gondolais lambda en butte aux difficultés de la vie en très très démocratique république. Dis-toi, cher voyageur en goguette par nos latitudes, dis-toi que tout est à sa place ici. Tout est fidèle aux paroles du chimiste qui disait que rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Par exemple, tu as dû entendre qu'en très très démocratique république, l'un des sports favoris de notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur, est d'accueillir à Gondwana City, notre belle capitale, de multiples et variés sommets, colloques, rencontres, symposiums, forums et autres conférences au cours desquelles des gens pointus et experts venant des quatre coins du monde échangent à bâton rompu, pérore, doctement sur des sujets censés prendre à bras le corps le quotidien ardu et le futur incertain du Gondwanais lambda. Et tu sais aussi qu'on ne pousse pas le bouchon jusqu'à imposer au Gondwanais lambda d'assister à ces rencontres de haut niveau. Ah non, on lui mâche le boulot le soir dans le journal télévisé qu'il ne regarde jamais. Mais régulièrement, on entend de ci et de là s'élever des protestations, des critiques venant des éternels empêcheurs de tourner et discuter en rond, syndicalistes, mouvements citoyens, activistes, opposants, bref, les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, quoi, qui répètent leurs mêmes chansons fatigantes et énervantes. À quoi servent ces sommets-là ? On dépense de l'argent pour des futilités alors que des gens souffrent. Et patati et patata. Une telle cécité est tout de même incroyable alors qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir l'utilité de ces sommets internationaux. Les jaloux saboteurs ne voient-ils pas que des routes de la capitale sont subitement propres, nuitamment balayées ? Ne remarquent-ils pas le calme soudain et souverain qui, depuis quelques jours, enveloppe le centre-ville, opportunément et généreusement débarrassé de ses vendeurs et revendeurs, boutiques et échoppes, mendiants et squatteurs, fermement et militairement déguerpis des trottoirs de la capitale. Ça là, ce n'est rien pour eux. On goudronne les routes, on encomble les trous et nids de poules, on rafraîchit les murs et les façades, on change les ampoules des lampadaires centenaires qui soudain ne souffrent plus de cataractes. Bref, on travaille. Et les visiteurs rentreront chez eux impressionnés d'avoir tenu sommet et conférences dans un si beau pays puisque, si la capitale est aussi belle et propre, c'est que l'intérieur du pays l'est tout autant, toute l'année. Et ces belles cités avec des villas soudainement sorties de terre pour loger les prestigieux invités et qui se retrouvent ensuite sur le marché, cités qui prennent les noms des sommets internationaux qui les ont vus naître. Ça là, c'est zéro aussi. Donc, arrêtez les calomnies. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À demain.
À demain, Maman. RFI, vous restez avec nous. dans un peu plus d'une minute. Le journal de Marion Cazanov. On va revenir évidemment sur ces frappes massives menées par Israël cette nuit sur la bande de Gaza. Et on y reviendra aussi avec notre invité Hasni Abidi à 8h15.
Ce mardi sur RFI.
Comment former les astronautes?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Rencontre avec celle qui a entraîné Thomas Pesquet et Sophie Adnaud. Laura André-Boyer est instructrice d'astronautes à l'Agence spatiale européenne. Elle nous fait partager l'envers du décor, dans les coulisses de l'espace. Les défis ne sont pas toujours ce que l'on croit.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix. En partenariat avec l'INA, Adobe et Aprime Publishing.